Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano au Commonde de votre magazine littéraire et musical. Moi, je lis et avec vous, je partage romans, nouvelles, poésie, albums jeunesse ou BD, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Pour vous expliquer un peu mieux encore, je chronique les ouvrages, j'interviewe les auteurs dès que j'en ai la possibilité. Et puis, et tout est là, mon truc en plus, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué. Une émission en général, un bouquin. C'est un seul bouquin et donc une playlist, histoire d'essayer de décloisonner les genres et au bout du compte les gens. Choisir un titre pour vous restituer un rythme, un autre titre pour vous dire une écriture, de la musique pour restituer des émotions de lecture. Au sommaire de ce numéro, un bouquin de 60 pages, beau comme on n'en fait plus. Une pépite à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer sans vous arrêter. Julia Kerninon signe pour nous son troisième ouvrage au Rouergue. Il s'intitule Une activité respectable et c'est une merveille. Et cerise sur le gâteau, Julia Kerninon, d'ici une poignée de minutes, répondra pour vous et moi à toutes mes questions. Mais en attendant, laissez-moi vous dire en musique comment je l'ai vécu, moi, son activité respectable.
Thank you.
Voilà, c'était Arcade Fire, Régine Chassagne pour être plus précise, pour vous dire toute la force, toute la lumière que fut pour moi la lecture du dernier Julia Carninon, qui s'intitule Une activité respectable, publié au Rouergue en cette rentrée de janvier. Julia Carninon, que je recevrai en interview d'ici une poignée de minutes. Alors, pour vous restituer un tout petit peu, Julia Carninon, qui n'a que 30 ans, et des brouettes, nous avait offert en 2014 Buvard au Rouergue, dans la collection La Brune, toujours. Buvard que vous pouvez trouver désormais en poche chez Babel, Actes Sud. Dans Buvard, elle nous racontait la rencontre entre une écrivain à la réputation sulfureuse dans son milieu, à l'enfance particulière, une écrivain à la fin de sa carrière, et un jeune journaliste à l'enfance, lui, carrément saccagé. Tous deux enfermés dans la maison de l'auteur, elle lui racontait sa vie entière, et c'était juste un moment de lecture incroyable. Elle lui racontait, elle aussi, comment elle est née, comment elle s'est découverte écrivain. Puis l'an dernier, Carninon signait au Rouergue, toujours, le dernier amour d'Attila Kiss, dans lequel elle nous permettait de rencontrer Attila et Théodora. Et là, sous sa plume toujours aussi juste, elle nous expliquait que l'amour, cette rencontre, peut avoir ses stratégies, ses déploiements, et comment tout peut être historique et culturellement compliqué entre les deux protagonistes, sans rien empêcher pour autant. Aujourd'hui, dans une activité respectable, Carninon remonte le fil de sa naissance au monde, sa naissance en tant qu'écrivain. Elle nous entraîne au cœur de la matrice, sa famille. On y rencontre des parents comme des personnages, une mère bilingue au manteau de léopard, à la passion pour la culture anglophone et pour la lecture, le père aussi d'ailleurs, un père discret, lui, au pantalon en velours côtelé, aimant les guitares basses et possédant le même amour passionnel pour la lecture. Ensemble, ils partagent cela avec Julia et tout peut débuter quand elle reçoit en cadeau une machine à écrire. On la suit jeune adulte, ivre et euphorique de sa découverte, de son affranchissement. Elle est une auteure, elle n'a besoin de pas grand-chose d'autre pour vivre. Le tout y est écrit dans une lumière magnifique et une joie palpable. Un souffle épique traverse l'échine du texte et moi, ça, je vous le dirais bien comme ça. Pour vous dire toute la lumière, la joie, le souffle épique aussi qui traverse de part en part ce texte autobiographique, une activité respectable paru tout récemment au Rouergue par Julia et signé Julia Carninon. Mais c'est le moment pour moi de la recevoir, Julia Carninon. Julia Carninon, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock'n'Page. Alors, bonjour. Une activité respectable est votre troisième ouvrage. Il fait suite à Buvard et puis Le dernier amour d'Attila Kiss. Comment est-il né cet ouvrage ? De quel désir exactement ?
En fait, quand j'ai sorti Buvard, je me suis retrouvée à partir un peu en tournée de librairie en librairie à travers la France pour présenter le livre. Et donc c'était la première fois qu'on me demandait de raconter mon parcours, pourquoi est-ce que j'écrivais, pourquoi est-ce que j'avais voulu écrire cette histoire-là, Buvard, comment est-ce que j'étais devenue écrivain. Et à force de répondre à ces questions-là, je me suis retrouvée un peu malgré moi à élaborer un récit forcément simplifié pour qu'il soit plus intéressant à écouter, de ma vie, comment je me présentais, comment je mettais les choses. Et puis, et donc du coup, bah, ça a fini par me donner envie d'en faire quelque chose. Et puis, il y a eu un premier libraire qui m'a demandé d'écrire un texte pour le groupement initial, un texte qui devait être publié. Donc, j'ai écrit un texte sur mon enfance et ça n'a finalement pas été publié. Et puis ensuite, une libraire de Nantes, Charlotte Desmousseaux, m'a demandé, ainsi qu'à d'autres écrivains, d'écrire un texte sur mon rapport à la librairie. Mmh. Et donc, à un moment, je me suis retrouvée avec ces deux textes-là qui étaient clairement de la même matière. Et j'ai décidé de voir si je pouvais faire quelque chose qui avait à voir avec l'autobiographie, mais en même temps de très modeste, parce que je suis un peu jeune pour écrire une autobiographie.
Ouais. Alors, dans vos deux précédents romans, les enfances, les lieux, les conditions de l'enfance sont éminemment importants aussi. Est-ce que c'est là un point qui vous obsède, dont vous ne finissez pas de faire le tour ?
Je crois qu'on se rend compte soi-même de ce qui nous obsède, notamment en écrivant, on n'y pense pas avant, et après coup, c'est les gens qui nous renvoient ça. J'aurais jamais pensé que l'enfance, c'était un sujet qui m'intéressait, et je suis effectivement forcée d'admettre que j'y reviens souvent. Mais en même temps, il y a quelque chose de très logique, on est tous forgés par les premiers moments qu'on a vécu, les premières valeurs, les premières choses importantes, ou choses qu'on nous a présentées comme importantes.
Est-ce que ce sont les détails, les images, parce qu'on va y venir un peu plus tard, mais des souvenirs qui préexistent au désir de ce texte, ou l'inverse finalement ?
Je ne sais pas exactement, c'était juste l'envie de mettre des mots sur ce qui s'était passé, de faire une synthèse aussi pour fêter mes 30 ans. Ça fait 10 ans que je travaille comme un chien pour devenir un écrivain. Et j'ai pas de projet pour après 30 ans, donc il y avait cette envie de refermer un peu le couvercle de toutes ces années-là. Et les détails, je crois que j'ai une bonne mémoire, et donc forcément je me rappelle des choses par petits détails frappants aussi. C'est un des trucs, quand on écrit, on voit les choses en essayant de saisir tout de suite les détails qui vont être... romanescable.
Vous avez une écriture là, tout partie. Enfin, c'est vrai sur les trois ouvrages que j'ai lus de vous, mais c'est très très cinématographique. Moi, par exemple, alors ça c'est très subjectif, mais la scène avec votre mère, les manteaux de léopard, la librairie. Moi, j'ai presque vu les codes du film Carole, par exemple, même si ça colle pas du tout au niveau des époques. Et puis là, dans ce texte-là, les phrases sont... Moi, j'ai trouvé que les phrases étaient très longues aussi, mais jamais, enfin, avec un rythme très très particulier. Est-ce que il y a quelque chose de l'ordre de l'image et du cinéma aussi dans votre écriture ? Vous diriez ça vous aussi ?
Je suis toujours contente quand on me dit ça. J'ai l'impression que ça sonne bien, mais je suis obligée d'admettre que je suis quelqu'un qui a très peu vu de films, plus que ce que je pensais. Mais quand même, c'est pas du tout. J'ai pas du tout le réflexe de regarder des films. Ma culture là-dedans est très très limitée. J'ai pas vu de classiques. Après, je pense que comme tout le monde, je suis extrêmement sensible au glamour de ces images classiques qu'on connaît, au glamour hollywoodien. Et puis, j'ai des copains qui sont plus intéressés par le cinéma que moi, évidemment, et qui en font. Et des fois, ça me rend très jalouse, parce que c'est pas un médium du tout que je maîtrise. Mais au cinéma, j'imagine que quand on filme, on peut montrer exactement ce qu'on veut montrer. Ça demande de la technique. Alors que quand on écrit, des fois, il y a quelque chose d'extrêmement... trop sobre, d'un peu frustrant dans le fait d'être obligé de produire une image mentale dans la tête du lecteur juste avec quelques mots tapés sur le papier. Et des fois, je trouve ça très limitant. J'aimerais bien pouvoir moi aussi faire bouger mes acteurs et pas avoir besoin de verbaliser ce que j'essaie de décrire. Mais bon, il se trouve que j'écris des livres, alors je suis obligée de faire comme ça.
Finalement, vous avez fait de vos parents, de vos grands-mères, de vos amoureux, de votre sœur, des personnages. Les lieux deviennent aussi des lieux qui flirtent avec des lieux imaginaires, j'imagine. Enfin, il y a une phrase très, très, très forte où vous faites un parallèle entre le fait que vous estimez que vous faites tout vite alors que votre mère... Vous lui rendez un espèce d'hommage, c'est la grandeur personnifiée. Vous dites, enfin, à la fin de la phrase, vous dites elle crache du feu, elle roule à droite, à gauche, peu importe, etc. etc. Elle saute en parachute. C'est vraiment ça, en fait. Vous avez tout retravaillé, vous avez fait d'eux des personnages, en fait.
En même temps, oui. En même temps, ça a toujours été des personnages. Pour moi, nos parents ne cessent jamais d'être pour nous des espèces de figures un peu mythiques. C'est toujours bizarre, mais tout est vrai. Ma mère crache du feu et saute en parachute et conduit à droite et à gauche. Je fais pas des images. Alors après, c'est ça qui c'était intéressant aussi dans ce texte, parce que moi je suis romancière. Je veux dire, j'avais jamais avant eu prétention à écrire quelque chose à mon sujet directement, en tout cas comme ça. Et c'était vachement intéressant de à la fois de mettre que des éléments qui sont vrais, avérées qui sont advenues, mais en même temps de des fois accélérer un peu le rythme, simplifier, parce que ben le lecteur, si je lui donne tous les petits détails, déjà le livre est moins excitant, mais aussi, enfin en fait c'est ça, c'est de la moins bonne littérature, ça devient du rapport, si je veux dire tout exactement. Donc tous les éléments sont vrais, mais des fois un peu décalés, un peu plus rythmés. Alors faire des personnages de ma famille, ben ouais, sûrement un petit peu. Aussi sûrement leur rendre hommage. On n'est pas une famille très famille, on n'est pas des gens très... Enfin, on s'aime beaucoup, mais c'était très particulier comme famille. Mmh. Et du coup, de mettre des mots là-dessus, aussi de retransmettre la légende que mes parents m'ont racontée.
Oui.
Et les voyages de mes parents au Canada, pour moi, ça a toujours été légendaire. C'est une histoire qu'ils nous ont racontée 3000 fois, qu'on connaît par cœur, on peut les interrompre nous-mêmes pour la compléter, enfin...
Oui. Alors le premier roman qu'on lisait de vous, à savoir Buvard, mettait une auteure à la fin de sa carrière, une auteure ayant écrit une dizaine de romans, ayant connu la reconnaissance pour cela. Et puis maintenant, là, vous nous apportez ce texte qui dit comment... Dans Buvard aussi, il était question d'une femme qui explique comment elle est née au monde écrivain, en fait. Enfin, comment, en tout cas, elle s'est vécue, etc. etc. Et puis là, vous arrivez avec votre... autobiographie à vous, en tout cas sur ce sujet-là, très pointu. À quoi ça correspond, cette espèce d'inversion commencée par quelqu'un qui avait... Vous ne seriez pas autorisé à parler de vous en premier lieu, en tout cas?
Bah, c'est-à-dire que par principe, quand on est primo-romancière, ça veut dire qu'on n'a pas écrit avant. Donc arriver sur la scène littéraire, si tant est qu'il y en ait une, en disant « c'est mon premier livre, et dans ce premier livre, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on écrit des livres », ce serait quand même un peu culotté. Après, Buvard, c'était une façon sûrement de faire un virage là-dessus. Enfin, c'était une pirouette pour le faire quand même. Mais la vérité, c'est que, et c'est beaucoup ce dont parle les nativités respectables, les livres m'obsèdent complètement. La littérature est ma seule faim, est ma seule soif. Donc, j'ai écrit un premier roman sur une auteure un peu idéale, à mon sens en tout cas, mais j'empruntais aussi beaucoup au code du roman américain. Enfin, je faisais pas que raconter ce que c'est qu'être une femme et écrire. Et puis en plus, Caroline N. Spacek, le personnage de Buvard, était très différente de moi, à beaucoup, beaucoup d'égards.
Dites-moi, excusez-moi.
Et là, j'écris un texte qui n'est pas mon autobiographie, qui est un fragment autobiographique, et qui en réalité, parce qu'il parle beaucoup de l'enfance, parle beaucoup moins de moi que de mes parents ou ma famille ou des livres. En réalité, j'ai l'impression que je suis la voix du livre, mais j'en suis assez peu le personnage.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Dans cet amour, alors moi, ça m'intrigue toujours comment nous, lecteurs, sommes assez fascinés dès lors que l'auteur dit son amour pour les livres et la langue, et en même temps, comment être étonné de ça, comment pourrait-il en être autrement. Mais est-ce que dans cette obsession qu'est la lecture, pour vous, par exemple, est-ce que ça continue ou est-ce que vous continuez à être à l'affût de plumes qui vont vous dépoter ou est-ce que résolument vous êtes assis sur les classiques et même les classiques hérités de cette famille finalement, celle où vous êtes née en fait.
Les deux, enfin mes parents et moi on lit pas les mêmes livres. Mes parents ils m'ont apporté un bagage, mais aujourd'hui on lit pas du tout les mêmes choses. On a tous lu les classiques, et puis c'est parce que c'est la base. Quand on est des gros lecteurs, on lit une bonne partie des classiques. Les classiques français, les classiques russes, dans notre cas, les classiques anglophones, du coup. Mais on... Non, c'est pas fermé. On vit pas dans la même bibliothèque, mes parents et moi. Moi, je lis tout le temps beaucoup. Je lis toujours beaucoup de fiction, mais je lis de plus en plus de non-fiction. Je lis des biographies de peintres, je lis de la socio, je lis de l'économie un petit peu. J'y comprends pas grand-chose, mais du coup, c'est de la poésie surréaliste pour moi de lire ces trucs-là. Des fois, je lis des romans graphiques pour voir, j'essaie de me tenir au courant. Je veux savoir ce qui se passe. Je lis certains livres qui sortent, mais pas tous.
Il y a une vraie peur de se faire... Comment on perçoit quand on est auteur contemporain comme ça, comment on perçoit les autres plumes contemporaines en fait? Il y a une peur de dire ah mince, ça serait tellement bien, je vais pas réussir à m'en départir, je vais pas réussir à m'en défaire.
Des fois il y a un truc d'une jalousie très saine qui est ah là là, je donnerais mon bras gauche pour avoir écrit ce bouquin, je sais pas comment il a fait. Ça c'est pas mal. Des fois il y a une jalousie moins saine qui dure un fragment de seconde où on se dit pourquoi c'est pas à moi que ça arrive certaines choses. Mais la jalousie est une émotion humaine parfaitement acceptable. Et puis c'est compliqué d'écrire des livres, on est toute une population de gens qui faisons des trucs très différents. Mais le fond du fond, c'est que La littérature qu'un individu produit est intensément personnelle. Donc, depuis que je suis écrivain, je connais d'autres écrivains. Il y en a avec qui je suis très amie et j'admire ce qu'ils font. Mais je serais complètement incapable de le faire simplement parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Donc, c'est en fait assez simple. Et puis, quand un livre, tout d'un coup, en vient à nous obséder, eh ben, ça dure un certain temps. Mais le temps de l'écriture ou le métier d'écrire, ça se passe sur un temps très long. Donc la pire chose au monde, c'est de s'inquiéter des vagues qu'on rencontre en cours de route.
Bah oui, j'imagine que c'est compliqué, mais j'imagine que ouais. Eh ben en tout cas, merci indéniablement pour ce texte qui est pour moi baigné de joie, de lumière, de vitesse, d'un souffle épique aussi qui le traverse de part en part. Vous avez répondu à la question Rock and Page, c'est-à-dire quel titre choisiriez-vous pour évoquer votre texte sans en parler?
C'est Golden Slumbers des Beatles qui enchaîne sur Carry That Weight, c'est sur Abbey Road.
Et pourquoi ce titre?
En fait, les Beatles, c'est la grande histoire de ma vie. Je sais que c'est un peu cheap de dire ça, mais j'ai jamais rien autant écouté que les Beatles. Et ces temps-ci, j'ai retrouvé tous mes CD en faisant le déménagement. Et j'écoute cette chanson en boucle. Je trouve ça extrêmement émouvant. C'est une berceuse, donc ça parle de l'enfance. Et puis, c'est ce grand medley qui enchaîne sur ce cœur d'homme qui dit qu'il va falloir porter cette charge très longtemps. Mmh. Et bon, c'est aussi ça, l'enfance.
Très bien. Merci, Julia Carnino.
Merci beaucoup à vous.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry.
Voilà, c'était les Beatles, choisis par Julia Carnino en personne pour évoquer une activité respectable. Ce texte qui vient de paraître au Rouergue, ce texte sublime qui relate son histoire autour de l'écriture et de la lecture, sa naissance en tant qu'écrivain. Et d'ailleurs, avant de clore ce Rock and Page, je vais vous en lire un extrait. Dans toute ma vie, j'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment appris. J'ai toujours fait les choses à moitié, à moins qu'elle ne me paraisse capitale. Mon écriture manuscrite est illisible en dépit des hurlements de mon père résonnant encore dans mes oreilles, parce que j'étais sa première née, parce que tout pesait sur moi. J'étais la mesure de sa survie, l'étalon hors de sa réussite. Je conduis sans jamais regarder les rétroviseurs, je ne comprends pas le second degré, je ne capte pas les micro-expressions faciales, je ne suis pas subtil, jamais. Je parle le même anglais aujourd'hui qu'à 10 ans, une langue pleine de grossièreté et d'approximation, avec laquelle je peux toujours m'en sortir, dans 3 accents différents selon les circonstances requises, mais chacun honorable. Les accents n'ont jamais été un problème, dans aucune langue, mais je ne possède pas de marge de progression. J'ai aimé toujours les mêmes choses, je ne sais pas changer, je suis comme une pierre au fond de l'eau. Tout au plus puis-je m'arrondir à la mesure de mon usure, mais la seule et unique chose qui m'intéresse en tout domaine, c'est d'aller vite. J'ai vu ma mère être capable de tout, scier du bois avec précision, le poncer, le vernir, le clouer, découper du carrelage, le poser, cuire des rôtis en croûte dans des cuisines de location, des mobil-hommes, sauter en parachute, cracher du feu, conduire à gauche, retrouver sa route partout, tenir tête à des hommes, il y a... Dans la cuisine de notre maison familiale récemment vendue à des inconnus, un carreau de faïence fêlé par la théière en fonte qu'elle a un jour jeté à travers la pièce pour effrayer mon père qui, je crois, criait trop fort et depuis trop longtemps ce jour-là. Mais je n'ai jamais vraiment compris qu'elle avait appris toutes ces choses d'abord en échouant. J'étais une petite fille, elle une femme adulte et une mère léopard. Nos ambitions comme nos nécessités étaient très différentes. Si elle avait fait face aux choses avec ma véhémence, mon impatience, notre maison aurait fait naufrage. Voilà, c'était un extrait de « Une activité respectable » de Julia Carninon, paru là à la Brune, au Rouergue. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce texte. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno de Divergence FM qui a réalisé la technique. Vous pouvez retrouver tous les anciens numéros de l'émission sur le blog qui lui est consacré. Vous n'avez qu'à taper Rock'n'Page dans un moteur de recherche. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt.
If I can't be a man, tell me what I am, tell me what I'm here for. If I can't be the one, tell her what I've done, what good can I be her? Did I not do enough to save the two of us?